Mardi 2 juillet 2019, il est 18h, l'heure du journal en français présenté par Diallo Maria Makenda. Bienvenue messieurs, dames, et voici ce qui fera l'essentiel de l'actualité. 2 ans après, aucune trace des 39 femmes et enfants enlevés dans le village de Ngalewa, région de Diffa. Pour l'heure, les efforts des autorités sont restés vains pour leur libération, une situation que condamne la société civile de Diffa. La présence féminine est insignifiante dans les médias. C'est le résultat d'un monitoring initié par l'Association des professionnels africaines de la communication, section du Niger, APAC Niger, dans le cadre de l'état des lieux de la présence des femmes dans les programmes des médias au Niger. Détail dans ce journal. Dans le département de Tanout, dans la région de Zender, un retard est constaté dans l'installation de la saison des pluies comparé aux autres départements de la région. Pour le directeur départemental de l'agriculture, il n'y a pas d'inquiétude, c'est dans la partie magazine. Bonsoir à tous. 18 soldats nigériens tués et 4 portés disparus. C'est le bilan communiqué ce matin par les autorités suite à l'attaque hier du poste militaire avancé de la commune rurale d'Inates, région de Tillabéri. Selon toujours le communiqué du ministère nigérien de la Défense, plusieurs terroristes ont été neutralisés ainsi qu'un de leurs camions et 2 véhicules kamikazes détruits. Les opérations de ratissage dans la zone se poursuivent, conclut le communiqué. 2 ans aujourd'hui que 39 femmes et enfants ont été enlevés dans le village de Ngalewa, région de Diffa, un acte attribué à Boko Haram. Les efforts des autorités en vue de leur libération n'ont toujours pas abouti, mais l'espoir est toujours permis, selon le maire de la commune rurale de Ngalewa, joint au téléphone ce matin par Asumana Shina.
À présent, ça se couvre. On souhaite leur libération. À présent, ils sont toujours en détention. On dit qu'ils sont dans la forêt en 2004 pour se lancer la formation commerciale.
Qu'est-ce que vous, autorité, vous êtes en train de faire pour leur libération?
Bon, moi, autorité locale, ça me dépasse, mais autorité au plus haut niveau, je suis sont en train de mettre les bouchées pour les libérer. Bon, Dieu n'a pas fait qu'ils soient libérés. C'est plus tôt possible.
Que disent donc leurs parents qui sont à Kabali?
Pour leurs parents, je pense qu'on n'a pas vu beaucoup de choses. On n'a pas vu beaucoup dans le sens de la libération de ces femmes et enfants.
Il y a toujours de l'espoir. Sport.
Tant qu'ils sont vivants, on est toujours optimiste. 15 jours, bon, quand la date viendra, ils seront tous libérés, Inch'Allah. C'est ce qu'on passe.
Les acteurs de la société civile de la région condamnent, selon eux, le mutisme des ONG défenseurs de droits humains pour retrouver ces femmes et enfants enlevés depuis le 2 juillet 2017. Mara Mamadou, coordonnateur de l'association alternative Espace Citoyen de Diffa, est au micro de Lawan Bokar.
Dans la région de Diffa, nous voyons beaucoup des ONG qui sont des ONG de défense et de protection des droits humains. Surtout, ils font la protection des femmes et des enfants. Mais ces ONG-là ne brochent même pas, ils ne font même pas une déclaration, ne serait-ce que des principes. Donc là, nous nous disons que durant les 4 années ou les 5 années qu'ils sont dans la région de Diffa, nous estimons qu'ils ne sont pas effectivement, véritablement dans leur rôle quand ils ne bougent pas. Parce que nous avons vu, dans l'histoire de cette région du bassin de Lac Tchad, quand il y a rap des femmes et des enfants, souvent, par exemple, l'État voisin du Nigeria a usé effectivement de la négociation, même si nous ne sommes pas sûrs qu'ils ont payé des rançons, mais quand même, les femmes et les enfants de Dapchi, les enfants de Chibok, tous ont été libérés, souvent contre rançon. Pourquoi pas au Niger?
15 médias de l'audiovisuel et des journaux du Niger ont fait l'objet d'un Media Watch dès le 30 avril par l'Association des professionnels africaines de la communication, section du Niger à PAC Niger. Un monitoring qui a consisté à suivre et faire le point sur la présence des femmes dans les programmes de ces médias. La présence de la femme est très insignifiante dans les médias, indique Amina Nyandou, présidente d'APAC Niger, à l'association de la cérémonie à l'occasion de la cérémonie de restitution de ce monitoring le samedi 29 juin.
Ce qui est ressorti de ce monitoring, la place des femmes demeure insignifiante à travers les médias. Dans ces résultats, il y a des journaux télévisés de certains médias qui ont eu 0% de présence de femmes dans les médias. Comment pouvez-vous comprendre qu'un journal télévisé d'au moins 30 minutes qui se déroule où aucun des reportages ni des interviews n'ont présenté de femmes? Pour nous, c'est une consternation, un regret, parce que en 2017, nous avons fait un monitoring sur 3 mois sur lequel nous avons eu au moins 15% de présence des femmes dans les médias. Et cette fois-ci, en une journée, on se retrouve avec un taux très très bas, moins de 7%, pour vous dire que c'est vraiment pour nous un indicateur qui va nous encourager à continuer la lutte pour la place et l'amélioration de l'image des femmes dans les médias.
Propos recueillis par Nafissa Adamou Sirfo. Le 33e sommet de l'Union africaine s'ouvre ce jeudi à Niamey en prélude. Les rencontres préparatoires des experts et des ministres ont débuté. Plusieurs sujets seront au menu de ce sommet, notamment les modalités de fonctionnement de l'accord de libre-échange continental africain, l'ASLEC, mais aussi la question sécuritaire et migratoire. Les détails avec Assetou Kanté du studio Tamani du Mali, qui séjourne au studio Kalangou du Niger dans le cadre des échanges entre les deux projets de la Fondation Hirondelle.
À 2 jours de l'ouverture du sommet, les rencontres préparatoires s'accélèrent au niveau de l'organisation. Près de 5000 personnes sont attendues à ce sommet, dont une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement, des experts nationaux et internationaux, ainsi que des partenaires techniques et financiers de l'Afrique. Un important dispositif sécuritaire est visible dans la capitale Niamey. Les enjeux et les défis de cette rencontre sont nombreux, dont l'un d'eux reste la lutte contre le terrorisme, mais aussi l'entrée en vigueur de la ZELEC, l'accord de libre-échange continental africain. Plusieurs réunions auront donc lieu, notamment la rencontre des premiers ministres, un symposium international de la jeunesse sur la prévention de l'extrémisme violent et la migration, mais aussi la réunion des premières dames d'Afrique sur le cancer. La cérémonie officielle d'ouverture du sommet est prévue pour le dimanche 7 juillet avec la réunion des chefs d'État. Ce 33e sommet de l'Union africaine intervient au moment où une attaque a eu lieu ce lundi à la base d'Inates dans la région de Tillabéri à la frontière entre le Mali et le Niger. Selon les autorités nigériennes, un bilan officiel fait état de 18 militaires tués et 4 portés disparus.
Le président nigérien Issoufou Mamadou est le nouveau président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, composée de 15 États plus la Mauritanie. C'était samedi à Abuja au Nigeria où il a succédé à son homologue nigérien Muhammadu Buhari à la tête de l'organisation régionale selon un communiqué de la CEDEAO. Les autres décisions du sommet portent sur la libre circulation des biens et des personnes, la performance économique, la mise en œuvre des programmes d'intégration régionale, la création de l'union monétaire de la CEDEAO, le développement de l'agriculture ainsi que les énergies et les infrastructures. 21 milliards de francs CFA, le coût global de la voie express aéroport de Niamey centre-ville, inaugurée ce matin, une route financée par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique et l'État du Niger. Notre reporter Adama Danwaki a rencontré quelques usagers qui se réjouissent de cette infrastructure. Cependant, ils évoquent le problème lié à la traversée de la voie par les enfants et les personnes âgées.
La route est bien construite, c'est à féliciter. Seulement, c'est la traversée qui sera difficile pour les femmes pour aller à l'autre bout de la chaussée. C'est vraiment difficile, surtout pour les femmes et les hommes âgés, et même pour les enfants qui sont au quartier Pays-Bas ici, qui vont se rendre au CEG20. C'est là même que se situe la grande difficulté. Demander à un enfant de traverser cet endroit, ce serait un calvaire pour les enfants. Il serait difficile pour lui de monter dessus.
Vraiment, la voie express est bien faite. Le seul problème qui nous dérange actuellement, c'est la traversée de la voie. Avant-hier, il a fallu assez que je m'appuie sur les barres de fer pour pouvoir traverser, ce qui n'est pas bon pour nous les femmes.
Quoi que les gens disent, ces voies sont bien faites. Elles ne présentent aucun problème parce que les voies sont séparées les unes des autres. Tout celui qui a fait l'auto-école comprend. Maintenant, tous les travaux sont finis. Les frais de transport vont baisser. Pour l'instant, du grand marché au quartier Talagué, c'est à 150 francs et jusqu'à l'aéroport à 200 francs.
Propos recueillis par Adama Danwaki. Le paiement du reliquat des frais de correction du bac 2017 a commencé hier à Niamey, selon Maman Adamou, le délégué des correcteurs du baccalauréat 2017. Il restait 208 millions de francs CFA à éponger. Cependant, les correcteurs se sont réunis en assemblée générale ce matin pour décider de leur participation ou pas au bac 2019, prévu débuter le 10 juillet prochain. Maman Adamou est interrogé par Adama Danwaki.
Le reliquat 2017 au total, ça s'élève à 408 millions. Donc l'année passée, ils ont payé les 200 millions. Et donc maintenant, c'est les 208 millions restants qui sont en train de payer. L'équipe du pays estime au plus tard, donc aujourd'hui soir, finir le paiement, donc le 2017. Le reliquat 2018. Comme vous venez de le voir, nous avons projeté donc une activité donc, d'assemblée générale où nous allons donner les dernières informations. Parce que hier, nous avons rencontré le ministre des Enseignements supérieurs. Nous avons rencontré le directeur donc, du BAC par rapport donc, aux faisabilités techniques concernant ce reliquat 2018. L'assemblée générale, elle est souveraine. C'est elle, donc, qui va essayer d'estimer si les informations sont fondées pour essayer de voir qu'est-ce qui est réalité, qu'est-ce qui est imagination ou bien qu'est-ce qui est tout simplement musique politique dedans. C'est donc le fait donc, de partir donc, aux corrections 2019. Tout dépendra donc de l'âge d'aujourd'hui et l'âge de demain.
De Kirozerine à Dolbel,
de Menosoroa à Birningaouré,
suivez les programmes du Studio Kalangou sur votre radio. Studio Kalangou au rythme du Niger.
La partie magazine de ce journal à présent, contrairement aux autres départements de la région de Zinder, celui de Tanout connaît un retard cette année dans l'installation de la saison des pluies. Dans de nombreux villages de ce département, les paysans n'ont pas, à la date du 24 juin dernier, semé. Mais Lawali Boukari, directeur départemental de l'agriculture de Tanout, est rassurant. Pour lui, il n'y a point d'inquiétude. Les prévisions météorologiques s'annoncent bonnes pour le département de Tanout.
Le département de Tanout dans la région de Zinder est durement touché par les changements climatiques. Le désert avance et les pluies s'amenuisent, ce qui explique le retard dans le démarrage de la présente campagne agricole selon Lawali Boukari, directeur départemental de l'agriculture.
Nous avons enregistré 191 villages qui ont semé contre 47 à la même période l'an dernier, en fin première décade de juin. Cette année, nous avons enregistré 191 villages. Pendant que l'an dernier, c'était 47.
Ça veut dire, monsieur le directeur, qu'on n'est pas encore en retard ici, à Tanout?
Non, nous ne sommes pas en retard à Tanout. Parce que quand on va regarder l'installation de la campagne, parce que chaque zone a une période d'installation de la campagne, donc ici, le département de Tanout, c'est une période en tout cas qui va jusqu'au 15 juillet. Donc nous ne sommes pas en retard par rapport à l'installation de la campagne. Tout ce qu'on est en train de faire présentement, c'est des semi-précoces.
Est-ce que les paysans sont conscients de l'importance de l'utilisation des semences améliorées?
Absolument, parce que on a vu leur capacité, les semences améliorées, parce que les semences améliorées ici, celles que nous utilisons, c'est les semences qui ont suivi plusieurs séquences de démonstration. Donc on a vu leur adaptabilité par rapport à la zone. Donc c'est ce qui a fait qu'en tout cas, les paysans eux-mêmes ont apprécié les qualités des semences. Certes, on n'abandonne pas les semences locales, qui sont de bonne qualité, mais en tout cas, si je constate les semences locales, vous allez constater qu'en tout cas, particulièrement dans beaucoup de zones actuellement, ce sont ces semences-là qu'ils sont en train d'utiliser, ces semences améliorées-là. Parce que c'est des semences qui résistent à certaines intempéries, qui suivent en tout cas les changements climatiques, tout ça-là.
Monsieur le directeur, on ne le souhaite pas en cas d'attaque d'ennemis des cultures. Est-ce que vous avez les moyens nécessaires pour y faire face?
En tout cas, alhamdoulilah, chaque année, dès lors qu'on a des attaques, on arrive à les contenir. Et quand vous allez prendre deux campagnes qui ont précédé, la campagne 2015, on a traité donc dans les 25 000 hectares. 2016, on a traité dans les 58 000 hectares. Donc ces traitements-là qui ont été faits surtout à temps, avec l'appui de l'État, non seulement les produits ont été suffisants, et également on a eu l'appui du centre anti-agri d'Agadez qui nous a appuyé à la logistique. Donc ce qui a fait que vraiment on a fait des traitements et à temps, au moment où les ennemis qui sont ici, surtout les sotoriaux, au moins ils n'étaient pas au stade adulte. Et ça a eu comme effet quoi? En tout cas, la campagne 2017, on a constaté une réduction des superficies infestées. Encore les traitements qu'on a eu à faire en 2017 qui ont été à temps. Donc la campagne passée, en tout et pour tout, on a traité que 800 hectares. En ce qui concerne donc les capacités d'intervention, pour le moment, nous avons disponible, comme je le disais tantôt, de 350 litres de produits.
Propos recueillis par nos envoyés spéciaux Mokhtar Amadou et Awa Ousmane. C'est la fin de ce journal. Merci de préférer les programmes de Studio Kalangou. Je vous laisse à présent en compagnie de Mokhtar Amadou que vous retrouverez dans le forum de Studio Kalangou. Ce soir, il vous parle de la sécurité dans la région de Maradi, gestion de réfugiés, comment faire face aux enlèvements des personnes.